Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Du coup, bonjour. Natalia Jankowska, CE de l'Isère. Et mission sur l'habiter, l'étude sur l'habiter demain en Isère. Et la question, est-ce qu'on peut approfondir un peu sur ou raconter sur le savoir d'un expert, le savoir profane, enfin, en gros, l'incompétence et la compétence et l'incompétence, s'il vous plaît.
Non, c'est parce qu'en effet, très tôt, j'ai lutté contre les spécialisations qui sont donc, comme toujours, elles s'autoprotègent. Les spécialisations sont nécessaires dans un monde complexe, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, corporatistes, vous-même, vous vous protégez, on se protège. Et donc, on pense qu'on a suffisamment de quoi faire avec les compétences alignées les unes à côté des autres. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait la synthèse de ses compétences. Si la personne qui fait la synthèse de ses compétences à une compétence générale, voire supérieure à chaque compétence, ça ne marche pas. On va mettre par terre les compétents. Voilà. Alors, un jour, j'ai un peu comme ce que j'ai présenté au début, j'ai travaillé sur, on pourrait dire, la non-connaissance. Mais j'ai presque travaillé sur l'incompétence ou sur l'incrédulité. Ou même, comme je travaillais avec... Je peux le dire parce que dans la salle, je pense que vous êtes majoritaire. C'est plutôt des femmes qui ont travaillé avec moi. Parce que ce métier était un métier que les hommes ne voulaient pas faire. Parce que c'était un métier qui était, en fin de compte, j'ai pas construit, c'était pas valorisant et tout. Donc j'ai commencé beaucoup avec des femmes. Et je disais toujours, en fin de compte, j'ai travaillé... Alors ça peut, en effet, aujourd'hui, ça peut être critique, mais c'était travailler avec plus de douceur, par exemple. Travailler, je faisais exprès d'ailleurs, même, puisqu'on les a rangés dans le domestique... Et ben peut-être qu'on a les expertes du domestique, voilà. Alors qu'on les considère pas comme compétentes parce que la domesticité, c'est en fin de compte, c'est quelque chose qui est négatif. Quoi. Et donc j'ai souvent fait pour retourner une compétence réelle, une compétence intuitive, une compétence de désir, une compétence de force comme ça, ou une compétence de la jeunesse. Enfin, j'ai travaillé souvent, mettons, avec des gens très jeunes. C'était de dire peut-être que la jeunesse, par son vertige peut-être de la vie, elle a un courage que quelqu'un de compétent n'a plus. Et peut-être qu'il faut amener une incompétence de la jeunesse ou une non-connaissance. C'est pas que je suis contre la connaissance, mais c'est pour qu'en fin de compte, il y a encore une connaissance vierge qui permette d'avoir envie d'acquérir pendant l'acte une autre connaissance. Et donc, quand vous le faites comme ça, c'est très drôle. Quand moi, j'ai amené d'abord presque toujours des femmes, parce que seules, elles voulaient être avec moi, c'était pas un choix de ma part, c'était la réalité, et qu'après, j'ai amené des gens très jeunes, voire des gens qui étaient naïfs. Voilà. Et j'ai vu que je pouvais retourner des situations. Et entre autres, mettons, parce que là, je vais vous quitter pour aller demain faire le... que j'ai pas montré, mais l'équipement que je préfère dans ma vie, si vous voulez, c'est... J'ai fait un bâtiment pour Slava Rostropovitch, le violoncelliste, si vous voulez. Et Slava Rostropovitch, il était directeur d'un festival, et moi, bon, je faisais des gradins pour le festival et tout. Et il dit un jour au mécène du festival, écoute, quand même, moi, vu ma notoriété, voilà, j'ai un truc nul, là, comme ça, des gradins en métal, Patrick, il est sympa, mais enfin, bon, c'est un peu bricolé et tout. D'ailleurs, tu devrais aller voir à Stadt, donc en Suisse, le festival Yehudi Menuhin, tu vois, lui, ce qu'il a, quand même. Alors, du coup, le mécène, qui était Antoine Ribou, donc patron de mécène, me dit, bah, Patrick, allez voir. Moi, j'étais pas allé à Stadt et tout. J'arrive à Stadt et je perçois que c'est une tente de Fraiotto, qui a été faite, donc, voilà, parce qu'il fallait faire une tente prestigieuse, non pas un cirque. Et, bien sûr, comme ce qui est beau dans Fraiotto, c'est quand vous allez très loin chercher les points d'accroche et de tension. Là, comme il n'y avait pas beaucoup de place, il y avait le voisin qui voulait pas la pince dans son jardin. Donc, en fin de compte, on a une tente assez nulle. Je rentre dans la tente et je vois qu'ils ont fait toute la correction en bois. Dedans, une conque en bois. Alors je reviens et je dis à Slava Rostropovitch et à Antoine Ribou, non mais en Suisse c'est nul. Ah, alors Antoine Ribou était content, il dit ah, chouette, on va pas avoir à payer la même chose que pour Yehudi Menuhin. Alors je dis mais c'est nul. Alors Rostropovitch, qui était quand même un génie, dit non, 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 moi ce que je veux c'est une tente en bois. Alors à ce moment-là, Antoine Ribou dit mais une tente en bois ça existe? Je dis ah, oui, c'est une grange. Et on peut faire une grange comme un cirque pour le même prix, à peu près. Et j'ai fait donc la grange au lac, et cette année, en fait, c'est 30 ans, avec la Philharmonique de Berlin. Je l'ai fait en un an, dans une commande qui s'est faite sur un coin de table. Il m'a donné la jauge, le modèle acoustique. On m'a dit, on veut que ce soit comme le Musikverein de Vienne. Vous voyez, à peu près comme, et on veut que ça coûte 6 millions de francs. Hein, donc, à peu près. Et il faut que ce soit prêt pour le prochain festival. Et donc, je fais ce projet. J'avais plus d'agence, plus rien. Parce que j'étais dans la rue, quoi. Et je prends donc 4 diplômés que j'avais suivis. Et je dis, ben, je vous passe commande de votre première affaire. Voilà, moi, je pense qu'on va la faire comme ça, comme ça, comme ça. On n'a pas d'argent à faire comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, c'est à vous de faire. Et donc, c'est leur premier projet. Et ils avaient 23 ans, quoi. Justine Nessy, qui était la chef de projet, avait 23 ans. Elle n'avait jamais fait de rendez-vous de chantier. Je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas. Tu vas être en présence de gens. Au contraire, respecte-les. Quoi. Et ce bâtiment, vous vous rendez compte que normalement, il devait pas. C'était très dur d'avoir le permis de construire. Et je vais faire un Larsen. D'avoir le permis de construire. Et on me dit, il faut que tu aies le permis. Parce que si tu n'as pas le permis, on n'a pas le festival. Et donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé quand est-ce que la commission se tenait à Annecy. Et donc, j'ai pris le train, je suis allé à Annecy, et je me suis présenté à la préfecture. Je dis, où se tient là? On m'a dit, salle 304, je monte à 304, je m'installe, tout le monde arrive, le préfet arrive, et c'était l'année du drame de Furiani en Corse. Donc le préfet arrive et dit, voilà, mais messieurs, normalement, il ne préside pas cette commission. Il dit, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, je tenais à vous dire, on a reçu une directive, donc, de la place Beauvau, plus de permis sous réserve 2. On le donne, on ne le donne pas. Parce que là, ça avait été donné sous réserve, Veritas s'était passé, qu'on change les cales au moment de la visite. Et donc, c'est non. Voilà. Non, ce n'est pas sous réserve. Bon. Et à ce moment-là, le préfet dit, bon, bah, commencez pour voir. Alors, il y a quelqu'un qui dit, bon, monsieur le préfet, on va étudier une école primaire à Copenhague. Alors, moi, j'ai la main, je dis, écoutez, excusez-moi, je suis venu en train, est-ce que je peux passer à... Vous êtes qui ? Mais moi, je viens pour... Mais vous n'avez pas le droit. Les auteurs n'assistent pas à ces commissions. Moi, on m'a dit que je pouvais venir, je suis là. Et à ce moment-là, au moment où il allait me mettre dehors, il y a le pompier qui lève la main qui dit, c'est parfait. On va le passer en premier parce que j'ai quelque chose à vous dire. Ce bâtiment est le bâtiment que je voudrais tout le temps avoir. Il est tout en bois. S'il prend feu, il brûle. Mais les gens sont sortis en 5 minutes et sa reconstruction donnera du travail à des charpentiers. Alors là, le préfet, il dit, écoutez, j'ai jamais entendu ça. Moi. Il dit, mais oui, parce que son bâtiment, il n'a pas de double plancher, il n'a pas de double plafond, il n'a pas de dessous de scène, il n'a pas d'isolant, il n'a pas machin. C'est juste une planche, une charpente et tout. Ça brûle comme ça. Il est de plein pied, il a tous les issues. Pour nous, c'est l'idéal. Et donc, j'ai eu le permis comme ça. Par un pompier. Vous voyez, c'est totalement inattendu. C'est pour ça que non seulement il y a l'inconscience ou l'imprévu, la nouvelle, mais il faut s'attendre. C'est pour ça que j'ai eu le Grand Prix d'urbanisme. Sur ça, le jury a dit, mais on devrait donner le Grand Prix à quelqu'un qui change ou qui a envie d'apporter quelque chose aux pratiques. Et donc, en fin de compte, c'est l'inattendu, l'imprévu.
Question, je vais en poser une. Patrick Bouchain, vous parlez du fait que vous avez beaucoup travaillé avec des jeunes architectes. Comme vous avez beaucoup d'expérience, qu'est-ce que vous constatez comme évolution dans la posture des architectes au fil des ans, au fil de ces 50 années ?
Alors, moi, je pense qu'à l'école, ça s'est amélioré par rapport à l'époque où j'y étais. Ça s'est amélioré parce que, en effet, il y avait des tas de choses qu'on n'enseignait pas et ça a quand même élargi, on pourrait dire, les connaissances indispensable. Mais en même temps, ça l'a académisé, je sais pas comment on dit, ça l'a rendu académique. Nous, on avait un enseignement académique contre lequel on a lutté. Après, on a eu un enseignement qui a été plus riche sur le plan des sciences sociales et sur l'histoire. Et puis, on l'a rendu trop correspondant à l'université. Ce qui était formidable dans l'enseignement de l'architecture, c'était que c'était l'enseignement sur projet. Donc moi, aujourd'hui, ça me fait rire. On dit maintenant, on a compris, il faut qu'on fasse un enseignement sur projet. Enfin, voilà, c'était ça qui était formidable. Moi, pour dire, j'ai pas passé plus d'un quart de temps à l'école. Les trois quarts du temps, on travaillait. Et moi, j'ai payé mes études et on travaillait chez des architectes. Donc on était praticiens et à l'école. Il y avait un truc comme ça, un aller-retour qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors moi, je pense que ça a amélioré, mais comme tout, il y a son pendant. Et ensuite, si vous voulez, il y a un problème, c'est que le corps s'est replié sur une pratique qui n'est pas celle que je viens de décrire. Et comme on va former, même si la France n'a pas autant d'architectes qu'il le faudrait par tête d'habitant, ça je ne remets pas en cause, par rapport à d'autres pays, mais il faut qu'on puisse donner à cet architecte des missions qu'on ne lui donne pas aujourd'hui. Des missions sur le paysage, sur l'espace public, sur l'enseignement, enfin des choses sur des missions, comme vous en avez vous d'ailleurs. Le CAUE est une réponse à ça. Voilà, des conseils, ainsi de suite. Mais les architectes ont tendance à ben, moi je voulais faire rentrer le design et l'architecture d'intérieur dans l'enseignement. Moi j'ai fait rentrer la scénographie. Vous voyez, parce que je pense que la scénographie, telle que je l'ai faite, peut-être que telle que je l'ai faite au théâtre, elle m'a aidé pour faire de l'espace public, ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait au contraire élargir les métiers qui concourent à l'environnement, dont l'architecture fait partie, donc peut-être que l'architecture est l'objet le plus représentatif, mais il faudrait élargir. Et donc je pense que là-dessus, l'ordre des architectes a une position rétrograde, fermée. Et donc comme moi, je ne voulais pas payer ma cotisation à l'ordre, considérant que je ne faisais pas de l'architecture, donc vous vous rendez compte que je ne pouvais pas m'assurer à la MAF. Donc j'ai été obligé de m'assurer à une autre compagnie d'assurance, à la SCAB, qui était plus chère. Donc je payais le double de si j'avais payé à la MAF. Et après, d'ailleurs, la MAF s'est rendue compte qu'elle perdait. Elle a commencé à vouloir assurer les ingénieurs conseils et les prototypistes, ce que j'étais, moi, et les gens de l'architecture intérieure. Donc je pense que vous devriez ouvrir parce que, voilà, vous voyez, le fait que les architectes aient accepté cette loi scandaleuse de dire qu'on peut construire une maison sans architecte jusqu'à 170, je ne sais plus combien de mètres carrés, c'est d'ailleurs reconnaître que tout ça ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, il faut qu'on le répare, parce que c'est un mitage qui a été mal fait, parce qu'on ne s'en est pas occupé. Donc moi, à l'époque, je luttais contre, je disais, mais vous êtes malade, 77, vous êtes complètement malade, là. Rien ne doit être fait sans architecte. Et donc j'ai fait exprès, quand Jacques Lang a été ministre de l'Éducation nationale, de faire une bourse aux petits projets. Et donc j'ai ouvert un local pour les universités et j'ai fait une annonce comme quoi, pendant l'été, tout architecte qui voulait suivre un chantier pour améliorer un petit truc à l'université était le bienvenu. Mais vous voyez, refaire les toilettes de Jussieu, les casiers de Assas, l'abribus de, je sais plus où c'était, à Saint-Denis, ainsi de suite. Et donc, il faudrait que même la puissance publique sache aussi appeler, presque en commande directe, des architectes, en disant, bah, tiens, ça, plutôt que donner à quelqu'un qui est juste un conducteur de travaux, ça relève d'un concepteur. La mise en peinture, mettons, à Blois, je tenais des commandes. C'est comme les architectes me reprochaient d'avoir mis un atelier public. J'avais dit, vous vous trompez, je vais relancer la commande architecturale. Parce que je vais exiger des promoteurs que vous ayez des contrats complets, par exemple, et non pas simplement des permis de construire. Mais donc, j'ai donné des permis de construire, j'ai fait des instructions de permis de construire en public. Parce que c'est intéressant qu'un auteur défende avec un promoteur, social ou privé, son projet. Et il n'y avait aucune raison de faire une réunion publique après. Donc les élus, le pompier, le machin, on y va. J'ai fait exprès de dire, je suis capable de donner un permis de construire en 8 jours. Bon, j'ai un peu exagéré. Et c'est de dire, en fait, on peut administrativement le donner en 8 jours. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que vous rencontrez sur la vie sociale, pratique, que vous devriez faire remonter en disant, bah, tiens, ce cas-là, je le traite en exception à côté de ce que j'ai dans la commande, un peu comme une recherche pour moi-même, quoi, une recherche action. Donc je pense que c'est ça qui manque. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure, moi, je me suis battu contre la HMO. Parce que l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est une reconnaissance que l'enseignement n'est pas bien fait et qu'il faut que la profession contrôle une dernière fois si c'est bien fait. Alors moi je trouve ça scandaleux parce que ça veut donc dire que c'est une sorte de numerus clausus caché, une façon de dire bon voilà on a recruté tout le monde mais après on va contrôler nous quoi. Et donc j'ai dit alors ok, mais à condition qu'on puisse faire ça HMO dans une collectivité locale, dans une entreprise privée, dans un office d'HLM et dans un CAE. Je m'étais battu pour qu'il y ait des HMO dans les CAE. Alors l'ordre s'est battu contre, en disant ben non, il n'y aura pas d'architecte. Alors dans les CAE vous en avez. Et quand moi je faisais dans des entreprises, je disais, ben, on leur donnera un parrain. Moi j'ai été parrain de gens qui ont fait leur HMO dans une entreprise de construction bois, par exemple, de charpente bois. Oui, je pense que c'est mieux pour un architecte qui rentre sur le marché après, pour lui-même, d'avoir fait un an chez un charpentier bois que chez un libéral qui va lui apprendre ce qu'on peut apprendre assez vite quand même. Ouais. Et vous savez comment j'ai eu l'idée ? Parce qu'il y avait plein de jeunes qui n'avaient plus de possibilité de faire des stages, parce que ça coûte quand même cher, pour des petites structures. Et donc, il y avait deux filles, deux jeunes femmes architectes à Nantes, que j'adorais, et elles m'avaient dit, on n'a rien trouvé. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas être architecte, parce qu'on n'a rien trouvé. J'ai dit, mais inventez, quoi. Alors, du coup, elles ont commencé à faire des boutiques, tout ce qu'on fait quand on n'a pas de travail, quoi. Et en fin de compte, elles ont vachement appris. Et donc, j'ai défendu l'idée qu'elles présentent qu'est-ce que c'est qu'une auto-formation de gens qui ne trouvent pas un stage. Et donc, elles ont eu leur échec. Donc, j'ai créé une jurisprudence.
Bonjour, Céline Moutet. J'anime la démarche d'ingénierie publique qui est conduite par le département en direction des collectivités. Je ne suis absolument pas experte en architecture et en urbanisme. J'ai une jeune étudiante qui travaille avec moi au département, qui est apprentie et qui est en train d'engager une réflexion, un mémoire sur l'habitat réversible. Et voilà comment, avec l'habitat réversible, favoriser l'installation des agriculteurs et puis redynamiser l'espace rural. Donc je vous pose un peu cette question, qu'est-ce que ça vous inspire pour potentiellement la guider et, dans ses recherches et lui apporter voilà, des éléments de réflexion. Merci beaucoup.
Déjà, par rapport à ce que j'ai fait, les gens pour lesquels j'ai travaillé au début étaient dans des espaces qui n'étaient pas faits pour. Donc c'est là où j'ai découvert presque même un point de vue théorique, ce qui n'est pas fait pour est plus adapté à que ce qui est fait pour. Parce que ce qui est fait pour, si vous voulez, est trop directif. Et en fin de compte, il empêche l'appropriation. Et ce qui est fait pour oblige un mode de vie. Voilà. Vous pouvez avoir envie, peut-être, je sais pas, de faire la cuisine dans la salle de bain qui n'a pas de fenêtre et de vous laver à la lumière du jour dans la cuisine, par exemple. Alors, j'ai commencé à dire, tiens, ce qui n'est pas fait pour est plus adapté à, d'ailleurs, même tous les bourgeois ou les bobos, je ne sais pas comment on l'appelle, quand ils utilisent, d'ailleurs, ils habitent des lofts, c'est bien ce que ça offre, le loft. C'est que ça offre, en effet, un espace qui est inattendu et qui est donc légèrement modifié, mais qui est appropriable. Alors, moi, je pense que c'est une discussion que je voudrais prendre, mais c'est là, je pense que j'aurais pas le temps de me battre sur ça. C'est on ne devrait plus donner de permis de construire s'il n'y a pas un projet de retournement. Voilà. On devrait dire, de reversibilité ou de retournement ou de changement de destination. On devrait dire, en fin de compte, le concepteur, il a choisi le poteau poutre ou je sais pas quoi, ou les fenêtres comme ça, je sais pas quoi, voilà, tout, parce qu'il pense que, un, l'habitant pourrait peut-être donner un avis au moment où on construirait, je sais pas quoi, et dans le pire des cas, si c'était pas ça, on pourrait dire que le propriétaire pourrait, pour le remettre sur le marché de manière plus alléchante, le remettre sur le marché avec un autre usage. Donc, c'est compliqué parce que sur le plan réglementaire, l'espace de travail n'est pas considéré comme l'espace d'éducation et d'habitation. Donc, on pourrait dire un permis de construire devrait faire attention de ce qu'il démolit. Puisqu'il démolit pour faire un projet, on ne peut pas tout garder. Qu'est-ce qu'il fait de la démolition ? Il ne devrait jamais y avoir un permis de démolir séparé de la construction, la même chose. Et il devrait y avoir un permis, en fin de compte, de réversibilité ou une orientation de réversibilité. Ce n'est pas de prendre d'auteur, hein. Qui dirait, ben, moi, je peux faire ça. Et par exemple, on devrait interdire tout permis de construire d'une tour de bureau où les fenêtres n'ouvrent pas, par exemple. Ça aurait été la première des règles. Vous ne voulez pas les ouvrir parce que voilà, vous préférez la climatisation, mais si un jour on remet une poignée, on pourra ouvrir, on pourra faire des logements. Et donc, je pense que ça, c'est une disposition écologique. Et c'est une disposition très simple. Et c'est une disposition intellectuelle qui force une réflexion intellectuelle. Alors moi, j'ai tenté de démontrer un peu ce que vous faites là, ce que vous dites, pardon, ou ce qu'elle veut faire, c'est de dire, mais regardons qui travaille. Il y a des gens qui travaillent la nuit, même dans l'industrie, hein, les 3-8. Il y a donc il y a des gens qui dorment le jour et qui travaillent la nuit. Et donc, il y a des gens qui travaillent chez eux, parce que le télétravail, maintenant, on en parle facilement, mais avant, il y avait des gens qui travaillaient chez eux. Il y avait des couturiers, des couturières, ou des gens des tricoteuses et tout. Moi, j'en ai connu dans les HLM pour faire des compléments de salaire, travailler chez elles. Mais dès que vous approchez un métier qui, d'un seul coup, est un métier un peu au-dessus, mettons, vous voyez un menuisier dans un logement social faire la tuminerie, immédiatement, il est mis à la porte. Et d'ailleurs, faites une déclaration du siège social d'une entreprise commerciale dans un logement social, le lendemain, l'office d'HLM vous menace de vous mettre à la porte. Alors on demande aux gens d'être autonomes, d'être auto-entrepreneurs, et ils n'ont pas le droit de démarrer une auto-activité, on appelle ça une auto-entreprise, chez lui, sauf si c'est l'ordinateur, ça ne se voit pas. Mais si on est en dehors de l'ordinateur, c'est non. C'est horrible. Moi, j'ai fait des essais avec les offices HLM. Je dis, mais je ne comprends pas. Vous vous rendez compte, cette femme, elle vit seule, elle a des enfants, elle a des revenus trop faibles. Il faut qu'elle travaille chez elle pour compléter et payer son loyer. Et vous l'empêchez. Donc, vous sciez la branche, quoi. Et vous dites après qu'il y a des gens qui font des non-paiements de loyer. Je ne comprends pas bien. C'est impensable. Non, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Et il ne faut pas être hargneux. Vous voyez, il faut tout le temps raconter que la vie elle est comme ça, et d'ailleurs c'est même tout drôle de dire et vous d'ailleurs, comme ça moi je fais et vous, vos enfants ça va bien là, l'école ils sont bons, ça va, ils vont avoir du travail. Des fois il y a des gens qui disent bah oui, excusez-moi, en effet, vous pourriez pas prendre en stage ma fille là parce que vraiment elle est pas bonne à l'école quoi.
Bonjour, merci pour la conférence. Emmanuel, jeune architecte, j'ai travaillé deux modestes années dans une agence d'architecture. Et aujourd'hui, je fais du chantier participatif pour apprendre le métier de la construction. Moi, je voulais vous poser la question, enfin une question un peu générale autour du thème de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous avez beaucoup parlé d'assistance d'artistes, d'assistance d'habitants. Et moi, c'est vrai que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est quelque chose que j'ai découvert après en pratiquant, parce qu'à l'école, on nous a pas parlé de ça, ou c'était pas, je savais pas que ce métier existait. Et est-ce que c'est un métier qui existait déjà à cette époque-là, quand vous faisiez de l'assistance, ou c'est quelque chose qui est venu après? Et quel regard est-ce que vous avez là-dessus? Je pose cette question parce que j'ai posé cette question à d'autres archis et j'ai eu d'un côté des personnes qui me disaient « Attends, mais c'est génial, on a un programmiste, il fait un vrai programme, pour une fois on a une vraie demande, on peut faire un vrai truc. » Et j'ai eu d'autres archis qui me disaient « Ah, c'est salaud, il nous pique le boulot. » Donc un peu votre avis ou histoire sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
En effet, moi, je pense que j'ai été très longtemps assistant à maîtrise d'ouvrage, public et privé, puisque j'aidais à passer, des fois, de la demande à la commande, la demande, je ne sais pas à quel moment ça se définit. C'est peut-être une demande, souvent c'est une plainte qui devient une demande, qui devient une commande, on élabore un programme, et après on choisit un concepteur, et puis le concepteur choisit les entreprises, puis après il y a un utilisateur. Et en effet, comme je disais tout à l'heure, il y a un maillon manquant et on perd à chaque étape. Et donc il faut un assistant à maître d'ouvrage qui se rappelle qu'il y a une demande. On ne va pas la perdre, cette demande, parce que sans s'en rendre compte, on ne sait même plus pourquoi il y a eu la demande et la commande, quoi. Donc moi j'ai été un des premiers assistants à maître d'ouvrage, mais ça ne s'appelait pas comme ça. J'étais assistant d'un politique ou d'un maître d'ouvrage pour l'aider à comprendre. Et après, quand j'ai commencé, l'arrivée des délégations de maîtrise d'ouvrage. Comme il y a eu la décentralisation et des collectivités qui sont devenues maîtres d'ouvrage et qui n'avaient pas de compétences pour conduire certaines maîtrises d'ouvrage, il y a donc des métiers qui sont arrivés de délégation de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que la collectivité est maître d'ouvrage en titre et elle délègue la maîtrise d'ouvrage à un bureau d'études ou à une société qui est chargée pour ça. Et là aussi, il y a un peu de perte. Donc, j'ai souvent revendiqué qu'on pouvait donner la délégation de la maîtrise d'ouvrage à celui qui va s'en servir, c'est-à-dire à la maîtrise d'usage. Parce que si on donne à celui qui va s'en servir, eh ben mon pote, maintenant que tu as réclamé et on a obtenu pour toi et qu'on va te le construire, ben, tu vas te le faire. Tu ne vas pas nous dire maintenant, mais non, c'est pas ce que je demandais, et tu vas y aller. Et donc, c'est de raccorder la boucle. Le dernier redevient le premier, ou le premier alimente le dernier. Et donc là, je suis en train de le faire, donc sur le grand axe de la défense, où je voudrais sauver, dans le cas d'un OIN, un établissement d'intérêt national, qui veut faire un travail social sur le paysage, parce qu'il y a du paysage foutu, des infrastructures et tout. Aucune entreprise ne peut répondre à cet appel d'offres, parce que voilà, on va avoir que des mecs qui vont combler les trous avec du polystyrène et mettre un peu de terre et des arbustes, quoi. Mais si on veut vraiment faire un travail écologique, on n'a aucune entreprise. Donc est-ce qu'on pourrait, avec une commande publique d'un OIN, passer commande à quelqu'un qui est en même temps un usager, mais qui pourrait faire les travaux, et en recevant de l'argent pour les travaux, il structurerait son action militante, sociale sur le terrain. Donc je vais créer une association de préfiguration qui va permettre à l'établissement public de me passer commande par délégation d'ouvrages à réaliser qui ne pourront être faits que par une association que je vais devoir donc, en effet, protéger parce qu'elle n'est pas tout à fait en règle. Et donc, il faut que je sois la caution entre l'établissement public et l'association qui, du coup, devient un délégué de maîtrise d'ouvrage. Donc, je pense que ce mouvement entre politique, maîtrise d'ouvrage public ou technique, et après conception publique ou privée et maîtrise d'ouvrage délégué ou pas public ou privé et usage public ou privé, je pense qu'en effet, tout votre avenir est là. Il faut se baigner, il ne faut pas prendre une spécialité, mais il faut connaître tout le mouvement. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que je connais absolument tout le mécanisme.
Oui, M. Bouchard, une petite question. Donc, moi, je suis Christian Morin, maire de Saint-Jean-Royant. En ma qualité de maire et puis en tant que privé également, je suis maître d'ouvrage. Et à vous entendre parler, ça semble tout facile. On dirait que les choses sont faciles à construire et que vous avez l'air de vous affranchir assez facilement de certaines réglementations, en tout cas, hein, de les remettre en question. C'est vraiment très intéressant et c'est même rempli d'humour. Et c'est pour ça aussi qu'on les écoute avec attention. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes parfois un peu loin de la réalité à laquelle on est confronté quand on doit discuter avec avec un maire, avec son PLU, avec une DDT, et voire même avec certains architectes également, et que là, on est un peu démuni. Alors, je venais d'entendre une réflexion sur les assistances à maîtrise d'ouvrage. On l'a utilisé, surtout dans une commune comme la nôtre, on n'a pas toutes les compétences pour vraiment apprécier et caler sa maîtrise d'ouvrage. Vous avez parlé de maîtrise d'ouvrage déléguée. On l'a utilisé, nous, ici à Saint-Jean, pour construire la maison de santé il y a 2 ans maintenant. Ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'il y a des formules, mais il n'empêche que au niveau réglementation, au niveau normes, au niveau respect de toutes les normes, pas seulement environnementales, hein, mais même construction, on est quand même confronté à beaucoup d'obligations qui nous éloignent très 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 loin de, enfin, un petit peu la liberté dont vous semblez parler dans les projets, dans les constructions. Bon, c'est une réflexion, je ne sais pas si c'est une question, mais qui mérite peut-être un petit commentaire de votre part.
Vous avez raison, mais je ne suis que dans la réalité. Et ça, le problème, c'est que j'ai voulu démontrer que du petit au grand, en effet, on ne réussit pas toujours. Moi, ce que je vous disais à midi, c'est que moi, on me dit, mais quels sont les projets ratés? Mais il y en a 9 sur 10 qui sont ratés. Mais en fin de compte, c'est des projets qui lèvent un lièvre, voient si c'est possible, commencent une opération, elle s'arrête, elle entraîne un autre, et au bout du compte, il y en a un qui sort. Donc les 9 préparent celui qui sort. Donc moi, je ne pense pas avoir raté. Je pense qu'il ne fallait pas en faire un, il fallait que j'en mène 9 comme ça, de front ou en ligne. Mais après, quand je passe à l'acte, justement, comme souvent on me fait votre remarque, parce que à force de tout le temps dire non, 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 on pense qu'on peut dire non. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès à chaque fois de changer de secteur. On va dire, bah, la culture, c'est normal, les petites communes, c'est normal, le privé, c'est normal, je sais pas quoi. Et donc j'ai même fait un office HLM. Vous voyez les maisons qui étaient en couleur tout à l'heure, vous vous rendez compte que c'est un office HLM Nord-Pas-de-Calais qui, dans le cas d'une opération en rue, hein, qui, bon, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais quand vous en vivez une, c'est redoutable. Ça veut dire qu'en gros, il faut démolir pour avoir les financements, quoi. Et comme là, on allait démolir des maisons qui avaient été construites avant la cité, et que Roland Castro a gagné le concours pour transformer la cité, où il a fait des toits, deux pentes, et ainsi de suite, pour rendre habitable la cité, ce qui est un leurre, parce que c'est le problème, il n'est pas dans le toit, deux pentes. On allait démolir ces maisons-là, au prétexte qu'elles étaient habitées socialement par le lumpen, quoi, vraiment inhabitable. Les gens ne payaient pas leur loyer, on ne sait pas qui était là et tout. Et donc le maire, qui était donc confronté à cette réalité, c'est à côté d'Outreau, hein, quand même. Donc on peut dire que c'est chaud, hein, et c'est la réalité. Il a dit, voilà, il y a un problème. C'est que si jamais on les met dehors, on peut évacuer, on diffuse la pauvreté ou le peu de lien social qui a été créé. On ne sait pas où ça va, c'est dramatique. Si on réhabilite comme on doit le faire, on met les gens dehors pendant un certain temps, mais on fait l'opération coup de poing, et ram, tac, tac, et on les remet dedans. Vous savez ce qu'ils font? Ils démontent tout, ils le vendent. Et ils vont rechercher à la déchetterie ce qui leur manque pour réapparer leur logement. Et Manny, est-ce que toi, tu voudrais faire une expérience? On ne démolit pas. dit, alors écoute, on ne démolit pas, mais comme tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent pour le faire, mais comme démolir, c'est 40 000 euros par maison, tu vas me donner, puisque là, il y a 60 maisons, tu vas me donner donc l'équivalent de la démolition argent que tu as, alors que l'opération en rue 2, tu n'as pas l'argent. Donc, moi, je ne veux pas supprimer de logement. Et donc, tu me donnes les 40 000 euros libres. Au moment où j'ai prononcé ce mot-là, il me dit, ah ben non, comme vous, ah ben non, mais attends, la DDT, le machin, le préfet, le truc, ah ben, c'est pas possible. Ah ben, je dis, alors, tu démolis. Il dit, non, je ne peux pas démolir. Ben, il faut faire un effort. Et si je ne veux pas démolir, il faut faire un effort. Donc, on a fait une réunion avec tous, en disant, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Caisse des dépôts, avec le préfet, avec la DDT, avec l'office HLM et tout. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ben, peut-être qu'on pourrait faire que la moitié des 2,4 millions qu'on aurait pour la démolition, on le donnerait pour refaire le clos et le couvert aux normes. Toiture, machin, étanchéité et protection extérieure. Donc j'ai fait des protections en parpaing, j'ai pas mis de tôle et tout, parce que là, ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait vraiment un parpaing extérieur, un doublage, un entablement de fenêtres larges et tout. Et dedans, l'argent restant libre. Eh bien, elle dit non, je dis, mais je ne comprends pas. Les régies de quartier, elles fonctionnent avec de l'argent comme ça pour faire des réparations. On va créer une régie de quartier, elle va recevoir 1,2 million, et moi, je gère le 1,2 million de travaux. Vous ne pouvez pas savoir, on est resté 3 ans, parce que ça a été long. Et vous ne pouvez pas savoir, on a dit à chaque personne, il n'y a que 20 000 euros pour faire ta maison dedans. Et les gens ont fait comme un bourgeois. Ben, quand on ne refait que la salle de bain, parce qu'on n'a que 5 000 euros, tout, hein, et ils ont pas le papier peint, je le ferai moi-même, mais la salle de bain, je ne sais pas le faire moi-même. Ou Roger, il sait faire la salle de bain pour même pas le prix. On a fait les descriptifs ensemble, les prix ensemble, on a fait le planning ensemble, et on a fait non pas 200 maisons, une opération de 100 maisons, on a fait 200 fois une maison. Et vous vous rendez compte que la Caisse des dépôts a dit, mais vous vous rendez compte qu'il va faire 200 dossiers? Il dit, bah oui, il y a 200 dossiers. Quand, dans une banque, vous allez emprunter, vous n'avez pas que tout l'immeuble emprunte pour donner un emprunt à quelqu'un. Et donc, c'est ça qui a tout changé. Chaque maison a porté un nom, la personne, histoire de la maison. L'office HLM ne savait même pas qui habitait dedans, parce qu'ils avaient redonné leur maison à leurs enfants et ainsi de suite. On a fait une reconfiguration sociale, et après, on a donné le budget, et après, une partie, enfin, une grande partie des travaux sont faits en autoconstruction. Pas de planning, pas de rien, tout. Viens pas ce matin, j'ai mal à la tête, repasse demain. Et quand on est parti, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Et donc, vous voyez, et l'office HLM, Nord Littoral, il avait fait des expériences que j'avais connues à Bourges, qui étaient vachement bien, qui étaient que quand vous voulez loger quelqu'un de très pauvre, et que vous n'avez pas les moyens de le loger en logement social, parce qu'il va perturber la collectivité et tout, on passe par une association, qui s'appelle le bail glissant, qui prend le bail privé en ville, pour lequel l'office HLM l'aide à prendre cela, et la personne, l'association, porte quelqu'un de très pauvre. Et quand cette personne est réinsérée, on lui passe le bail. Moi, je pense qu'il y a des... En effet, voilà, c'est une énergie positive, quoi, c'est tout. Mais vous avez raison, c'est invraisemblable que ce ne soit pas possible. Que 1% de la population mondiale et qu'on se, quand même, là c'est un peu poil de cul quand même, et qu'il y en a quand même d'autres qui ont d'autres questions. Hein.
Je suis Lisa Dumay de l'association De l'Air. Il y a une douzaine d'années, le parc naturel régional du Vercors a lancé une expérimentation grâce à des fonds européens sur la question des espaces publics. Et j'ai eu la chance de travailler là-dessus sur la commune de Saint-Jean-en-Royan à l'époque, en association d'ailleurs avec le CAUE de la Drôme. Et j'avais envie de vous le raconter, Patrick, parce que c'était à l'époque, j'étais associée avec le collectif Existe et avec un petit centre d'art de Pont-en-Royan, non loin d'ici. Et en fait, on a mené pendant 2 ans une expérimentation assez dingue, très libre, grâce à notamment aux élus qui portaient complètement cette démarche. Et nous sommes allés jusqu'à un quartier d'habitat social qui s'appelle Les Chaux, quartier qui est à Saint-Jean. Et on a profité de la démolition d'un immeuble HLM, un immeuble de Drôme Aménagement Habitat à l'époque, où Existe a récupéré, le collectif a récupéré des des matériaux, notamment la charpente, mais aussi des portes, des baignoires, etc., pour créer notamment un kiosque qui appartenait aux habitants du quartier, aux habitants aux collégiens qui étaient juste à côté. Juste pour information, le collectif existe, c'est un des premiers collectifs, on va dire, d'architectes plasticiens qui sont un peu les petits-enfants de Bouchain, comme ils le disaient à l'époque. Et tout ça pour dire que c'est quand même pas anodin d'être que vous soyez là aujourd'hui, en tout cas moi ça résonne assez fort avec cette expérience, et que j'avais envie de vous entendre, en vous racontant ça aussi au passage, j'avais envie de vous entendre sur la question de l'importance de l'expérimentation et de la carte blanche, et que justement ce que vous dites, c'est que face aux normes et face au cadre dont on a besoin absolument, il faut vraiment remettre aussi le pouvoir de l'imagination et du lien social, je pense, au centre. On a commencé avec une charrette, avec un four à bois dessus, on a fait du pain à partir des recettes locales, à partir des savoir-faire vernaculaires, et je pense que c'est parfois modestement qu'on peut aussi aller à la rencontre des habitants, et que ça commence parfois par ça, d'être architecte ou urbaniste, en mettant les pieds sur le terrain, en rencontrant les gens, et en le faisant modestement mais sûrement. Et j'avais envie de vous entendre sur cette question de la carte blanche et de l'expérimentation, qui à mon avis est tout aussi importante que les cadres réglementaires dont on a aussi besoin.
Bon, puisqu'en effet c'est plus que mes enfants, enfin c'est très proche, quoi. Et donc c'est eux, parce que avant, quand on passait son diplôme d'architecte, il fallait un pour un projet et un jury. Après, on a commencé à dire c'est mieux d'être deux, parce que voilà, c'est mieux de faire un projet à deux. Après, il y en a qui ont commencé à être trois, et à ce moment-là, les écoles ont commencé à dire ah non, au-delà de trois, c'est un autre jury. Donc eux, ils ont passé leur diplôme, ils voulaient être cinq. Et donc, en étant cinq, il y a eu deux jurys. Et donc, moi, j'ai été président d'un des deux jurys. Et donc, ça a été formidable, puisque ça a été deux jurys, en fin de compte, qui ont dialogué entre eux, déjà, sur la qualité du travail des cinq étudiants d'Exist. Et donc, je les ai vraiment découverts à ce moment-là avec une très grande habileté, parce qu'ils ont fait leur diplôme dans la rue. Ils ont fait une construction sur une partie du parc de la Villette que j'avais obtenue, et ils ont habité pendant un mois la construction qu'ils ont faite. Leur diplôme était sur une construction et comment on peut habiter un quartier. Donc c'est un peu là qu'on a inventé la permanence architecturale. Et donc, moi, j'ai gardé, je les vois tout le temps, quoi, surtout Pierre Schneider. Et on me donne un jour, on me dit, est-ce que tu es d'accord pour avoir le commissariat de la Biennale de Venise ? Qui pourrait refuser le commissariat ? Moi, je dis, attends, moi, je ne suis jamais allé à Venise. Peut-être, mais enfin, j'ai du travail, c'est un commissaire comme ça, on n'est pas rémunéré, c'est beaucoup de travail. Alors, si je vais réfléchir, donnez-moi l'été pour réfléchir. Donc, j'ai réfléchi l'été, ce qui paraissait invraisemblable. Et en septembre, je dis, OK, je veux bien prendre le commissariat. Je dis, on est content, parce qu'avec toi, ça va coûter moins cher. Oui, j'ai compris pourquoi je choisissais. Et je dis, on me dit, quel est ton sujet ? Je dis, je vais habiter le pavillon. Et vous voyez, de prononcer ce mot, ils ont cru que c'était un concept. Alors, ils m'ont laissé faire. Habiter le pavillon, il a fait une exposition sur habiter le pavillon et tout. Et un jour, je passe devant le contrôleur de gestion, le contrôleur financier du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est mixte Affaires étrangères et culture, et le mec, il voit le devis, et il voit casserole, oreiller, frigidaire. Le mec, il dit, mais ça va pas, non ? Les Affaires étrangères, on va pas financer des casseroles. Je dis, mais pourquoi ? Il dit, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Je dis, mais moi, j'habite le pavillon. Mais on n'avait pas compris. Je dis, mais si, j'habite le pavillon. Alors, il dit, mais comment on va faire ? Je ne sais pas, moi, prenez quelqu'un d'autre, mais on n'a plus le temps. Il dit, c'est ça, vous êtes coincé maintenant. Donc, moi, j'habite le pavillon. Et alors, après, je dis, mais pour quelle raison ? Il me dit, parce qu'on n'a pas de ligne pour acheter des casseroles. Vous voyez, pas de ligne. Et alors, vous avez une ligne pour acheter des ordinateurs. Oui, et l'ordinateur, c'est plus proche de l'architecture qu'une casserole. Vous me le démontrerez. Moi, je pense que la casserole est plus proche de l'architecture que l'ordinateur. Il dit, oui, c'est vrai. Bon. Il dit, allez, faites-le. Et donc, on l'a fait. Et pour habiter le pavillon, il fallait que je trouve des gens qui l'habitent. Et donc, vous vous rendez compte que dès le moment où j'ai eu l'accord, j'ai donné le pavillon au collectif Exist. Ils sortaient de l'école, avoir le pavillon, habiter le pavillon, construire le pavillon. Parce que l'argent pour construire, on a pris l'argent nous-mêmes pour construire. Habiter, on a pris l'argent, et ainsi de suite. Et donc, on a habité, on est les seuls à avoir habité 3 mois le pavillon. On est devenu le pavillon des pavillons. Parce qu'on était les seuls à avoir des toilettes, les seuls à avoir une pharmacie, les seuls à avoir la Wi-Fi, les seuls machin. Et donc, du coup, le pavillon français est devenu le pavillon des pavillons. Et tous les 3 jours, on mettait le nom d'un pays qui n'a pas de pavillon. Le Mali, le Cameroun, la Havane. On changeait. Il y a Francia, on mettait la Havana, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas savoir. Même si, parlé aux grands architectes, je sais pas, Renzo Piano, il est venu dans ce pavillon, il dit, j'ai jamais vu ça. Norman Foster, il est venu, parce qu'on avait fait une petite piscine, on avait fait un sauna, un hammam et tout. Eh bien, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que même l'ambassadeur, qui était Jacques Blot, quand même l'ambassadeur de France, j'ai dû avoir son autorisation pour avoir une adresse Wi-Fi, parce que vous ne pouvez pas avoir la Wi-Fi sans adresse. Il a découvert à ce moment-là que le terrain n'avait jamais été remis à la France. De toute façon, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est retourner des situations qui sont des situations...
Bonjour, moi c'est Charlène, je parle en tant qu'habitante du Royan et en tant qu'ancienne élève de l'ANSI, l'école que vous avez participé à créer. Et je voulais vous entendre un peu sur la notion de participation des habitants, la participation habitante, et l'idée de placer les usages au cœur des projets, qu'ils soient architecturaux ou d'urbanisme. Et comment, en gros, l'architecte ou la personne qui fait des arts appliqués dialogue avec les élus, parce que moi je trouve que c'est souvent difficile... Je suis designer aussi, de discuter ou de dialoguer avec des élus qui ne sont pas forcément habitués à ces formats de participation habitante. Et c'est surtout une notion qui est de plus en plus, je trouve, utilisée en tant que façade, comme un leurre. Et comment est-ce qu'on déconstruit ça ?
Voilà, moi je pense qu'en effet, on est tous habitants. Il n'y a pas les habitants, voilà, puis après les autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, déjà la permanence architecturale. Tout architecte qui est ou designer, ou peu importe, ou paysagiste, doit habiter la ville pendant le temps du projet. Déjà, c'est une règle. Donc voilà, on se déplace. Moi, j'ai aucun chantier à Paris, je me déplace. Quand j'étais jeune, voilà, j'habitais un peu partout. Donc ça, c'est le premier, être soi-même habitant. Et ensuite, c'est pas en effet un dialogue où on fait et on dialogue sur ce qu'on a fait, c'est on dialogue dans l'action. Donc il faut trouver un moyen de mettre en route une action dans laquelle un, deux, trois habitants sont motivés ou nécessairement actifs. Et c'est eux qui font rentrer les autres habitants. C'est comme ça. Ça peut être des parents d'élèves, ça peut être un élève, ça peut être un élu. Il ne faut pas mettre les élus d'un côté et les habitants de l'autre. Et ça peut être un ouvrier, qui d'ailleurs est une entreprise locale, qui va avoir un chantier local et qui a envie de faire visiter, par exemple, le chantier qu'elle construit. Vous voyez, donc on fait souvent, nous, des chantiers ouverts au public. Donc le samedi et le dimanche, c'est ouvert pour que les gens qui construisent emmènent leur famille pour montrer ce qu'on fait. Ou des fois, on arrête des chantiers, on est compte qu'on a arrêté la condition publique en plein chantier, alors que j'étais en retard, il dit, on s'en fout, on arrête. On a nettoyé, on a fait un essai acoustique en demandant à Manu Chao de faire un concert. Et Manu Chao a accepté de faire le concert. On a vendu les places en une heure à la FNAC. Et on a fait un concert dans le chantier avec tous les ouvriers, Manu Chao et 3000 personnes. Et on a vérifié l'acoustique à ce moment-là. Et donc là, d'un seul coup, bah, c'est cette participation habitante. Et vous ne le savez pas quand ça arrive. Il ne faut surtout pas la programmer. Elle est comme ça. Et bien, elle est comme ça.
Alors, on a encore tous beaucoup de questions. Moi-même, j'en aurais plein. Mais on vous propose de clôturer la conférence et de continuer à discuter autour d'un buffet qui est dans la salle juste à côté. Merci.